Bien. Vous avez bien digéré le gâteau au chocolat. Le fondant au chocolat. Spécialité maison. Avec amour et compassion. La bodhicitta à l'état pur. Il faut faire attention, dans un centre bouddhiste, hein, tout ce qu'on prend est béni. Bien. On va commencer par se concentrer sur la respiration. Donc on va voir cet après-midi justement comment essayer de développer bodhicitta graduellement, progressivement, pour que quand vous partiez à la fin du week-end, vous sachiez exactement tout ce qu'il faut faire, comment procéder, et que vous puissiez l'appliquer au quotidien. Toute méditation, vous savez, elle commence par une méditation sur la respiration, comme ça, ça permet de recentrer l'esprit, et c'est une base indispensable, hein, pour générer un peu de calme mental, même si c'est pas le calme mental absolu, c'est déjà pas mal, de se concentrer pendant le temps qu'on peut, hein, on n'est pas obligé d'en faire une demi-heure, simplement 5 minutes, parfois ça suffit pour... si on le fait au quotidien en plus, déguiser un peu notre esprit et l'amener à un état, disons, au moins neutre avant de commencer la méditation, déjà pour qu'il soit plus réceptif et qu'il oublie un petit peu ce qu'il a vécu dans la journée donc c'est bien dès qu'on s'assoit de poser l'esprit, d'amener sa conscience sur la respiration, sur le cycle, sur le rythme naturel de la respiration, et de laisser de concentrer tranquillement l'esprit sur la respiration, en oubliant, en laissant passer toutes les pensées, toutes les distractions, tous les soucis qui sont souvent liés à des pensées. On sent tout de suite que la respiration, elle change dès qu'on se concentre dessus. Peut-être pas tout de suite, mais après une minute ou deux, il y a un changement qui a lieu dans sa façon de respirer. Elle devient plus ample, plus lente, moins saccadée. Simplement, le fait de prendre conscience de ça, de ce changement, ça amène déjà un peu de paix dans l'esprit. Et le fait de se concentrer sur la respiration nous ramène aussitôt à l'instant présent, à nos sensations immédiates, qui sont la seule chose qui soit réelle au moment présent. On prend aussi conscience de notre corps, du poids de notre corps sur le coussin, la gravité, la pesanteur. Pour sentir vraiment qu'on est là, présent et bien incarné. On laisse tomber, on relâche les épaules, On redresse la colonne vertébrale. On essaye de trouver un axe où on n'est pas ni trop penché vers l'avant, ni trop vers l'arrière, ni trop à droite, ni trop à gauche, mais bien vertical. Et on essaye de ressentir cette verticalité qui est très agréable, en fait, à ressentir. C'est comme un équilibre, c'est comme on équilibrait toutes nos énergies. Ensuite, quand on s'est occupé de son corps, on regarde son esprit, dans quel état il est. Et comme on ne le voit pas, son esprit, on pense simplement que c'est un espace vide, un espace clair, lumineux, comme le ciel, aussi vaste et lumineux que le ciel, dégagé des nuages. Et que dans cet espace mental, toutes sortes de choses peuvent se passer, des pensées, des sensations, des impressions, des souvenirs. Mais tout ça, c'est juste des nuages qui passent. Ça ne fait pas partie de la nature de notre esprit. Même si un nuage passe, on reste conscient de la nature de notre esprit, qui est clarté, luminosité, conscience, présence. Dans cet espace clair et lumineux, on va amener une pensée. On va penser, quel est le but de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Et on essaie de répondre à la question, bien sûr. Et on se dit, ouais, si le sens de ma vie, c'est simplement d'être fort, que personne ne vienne m'embêter, que tout le monde me respecte et que je sois tranquille, ben, pour ça, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir une vie humaine. On aurait pu naître comme un tigre. Personne ne serait venu vous embêter, qu'un autre animal. Ou si notre but dans la vie, c'est simplement de passer du bon temps, de bien manger, se divertir, jouir des plaisirs de la vie, tout ça. On passe à côté quand même d'un gros potentiel de notre intelligence humaine qui nous permet quand même de faire autre chose de notre vie. Il y a des tas d'animaux qui ne font que ça, que manger. Donc cette vie humaine qui est la nôtre, dotée d'une intelligence remarquable, doté d'une liberté assez incroyable. On peut faire ce qu'on veut, plus ou moins, on peut aller où on veut, penser ce qu'on veut. Donc cette vie, elle doit avoir un sens quand même, elle doit avoir un but. Et est-ce que ce but, c'est simplement d'être heureux pour nous-mêmes, tout seul ? d'avoir tout ce qu'on veut, que personne ne nous embête. Le problème, c'est qu'on veut tous être comme ça, on veut tous être heureux. Et on ne peut pas être vraiment heureux quand on pense qu'il y a des tas de gens qui souffrent. Donc vouloir atteindre un état de libération où l'on serait vraiment parfaitement heureux, paisible dans sa bulle, vraiment intéressant. En plus, si on essaie de se rappeler s'il y a un moment où on a été vraiment heureux dans notre vie, essayons de nous souvenir d'un moment où on a été vraiment parfaitement heureux, ou en tout cas très très heureux. On a tous vécu un moment comme ça. On essaie de se le rappeler, ce moment, de le faire revenir à l'esprit, avec qui c'était, comment c'était, quand c'était, voir les conditions. Et on voit en général que c'était aussi qu'on n'était pas tout seul à être heureux, qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était heureux avec nous. Peut-être qu'on avait fait quelque chose pour cette personne, qu'on l'avait aidée, que peut-être c'était même plusieurs personnes qu'on avait aidées, ça nous avait procuré un grand sentiment de bonheur intérieur. Et le plus souvent, c'est comme ça. Les vrais bonheurs que l'on ressent, c'est lié à d'autres personnes, et c'est souvent parce qu'on a été utile à quelqu'un d'autre, ou qu'on lui a fait grand plaisir, qu'on lui a apporté quelque chose qui avait du sens pour nous et pour lui. Quelque chose qui l'a aidé. Et donc ça nous montre que tous les êtres, comme nous, désirent être heureux. Que tout le monde désire être libre des problèmes et de la souffrance. Et que c'est ça, finalement, qui va donner le plus de sens à notre vie. Que peut-être, le but de notre vie, c'est d'être bénéfique aux autres. C'est de faire le bien des autres. Parce qu'on voit qu'en même temps, on en retire un grand bonheur. Donc on peut imaginer comme ça serait bien si on pouvait vivre sa vie avec le souhait, avec la pensée, que chaque instant, de faire de chaque instant quelque chose qui a du sens, pour soi et pour autrui. Regardez comme ça éliminerait de la souffrance et comme cela procurerait du bonheur pour tous les êtres, y compris nous-mêmes. Donc pour développer cet amour altruiste, il y a une petite méditation, toute simple, qui consiste à visualiser quelqu'un qu'on aime beaucoup. Quelqu'un, même si c'est de l'attachement, peu importe, quelqu'un qu'on aime vraiment. Donc ça peut être quelqu'un de... Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être notre conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être même un animal de compagnie. Et en visualisant cette personne, ou cet animal, on lui adresse un souhait. Donc, comme ce serait merveilleux, ou puisses-tu être heureux tout de suite et tout le temps, que tous tes souhaits se réalisent, que tous tes vœux soient comblés, qu'il ne t'arrive que du bien, que du bonheur dans ta vie. Et on envoie, on dirige ça, on dirige ses pensées positives à cette personne. Ça marche très bien avec un enfant, par exemple. Si on voit un enfant et avec ses yeux pétillants de joie et de, qui vient vers vous et avec une confiance totale, absolue, et vous sentez dans votre cœur un élan d'amour, de joie aussi pour cet enfant, et vous n'avez qu'une chose en tête, c'est de lui souhaiter tout le bonheur possible et imaginable. Essayez de ressentir ça. Et maintenant, à côté de cette personne, on va élargir un peu le cercle et on va mettre d'autres personnes aussi avec qui on a des sentiments amicaux, avec lesquels on se sent proche et heureux. Et pareillement, donc, en amenant aussi d'autres gens, on leur souhaite pareillement qu'ils soient heureux, qu'ils aient le bonheur et ses causes. Et puis, on va encore élargir le cercle. Et puis, pourquoi pas, on va y amener des gens qu'on ne connaît pas. Toutes sortes de gens à qui on n'a jamais parlé. Que l'on croise peut-être sur son chemin, en allant travailler. Que l'on voit des visages connus, ou plus ou moins connus en tout cas. On va les amener aussi, dans notre espace mental, là, dans notre cercle. Et pareil, leur souhaiter, puisses-tu être heureux. Puisses-tu avoir du bonheur. Puisses-tu avoir de la joie, la réussite, des bonnes conditions de vie. Que tout se passe bien pour toi. Pour vous tous. Que vous soyez en bonne santé, que vous ayez du travail. Ne soyez pas inquiet. Et enfin, on va essayer, si on peut, d'y amener quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Ça peut être son voisin. Ça peut être quelqu'un... Ça peut être un dictateur. Ça peut être quelqu'un qui crée du... qui fait beaucoup souffrir en ce moment. Qui crée de la souffrance. Mais qui est pourtant un être humain et qui... comme tous les êtres humains, aspirent aussi au bonheur, sous quelque forme que ce soit, et qui, malgré son comportement, au fond de lui, a aussi cette nature de Bouddha, a aussi cette envie d'être libre de la souffrance. Et s'il agit comme ça, c'est à cause de ses perturbations mentales, c'est pas vraiment sa nature, c'est parce qu'il est malade, quoi. C'est parce qu'il a un comportement comme ça, parce qu'il a des fortes perturbations mentales, son karma peut-être, mais qu'au fond, c'est un être humain aussi comme moi, qui a les mêmes aspirations, mais une autre maladie. Donc on essaye aussi de l'amener dans ce cercle, cette personne, et de lui souhaiter que son esprit se transforme, qu'il arrive à trouver un état de paix et qu'il change d'attitude. On essaie de rester, grâce à la méditation, le plus longtemps possible, concentré sur cette aspiration, cet amour altruiste, cet amour pour tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur apparence, quelle que soit leur tendance, leur caractère. Une fois donc qu'on ressent ça, qu'on ressent cet esprit d'amour altruiste, on enlève les objets, c'est-à-dire tous les gens qu'on a mis, on les fait disparaître et on reste simplement concentré sur l'esprit, c'est-à-dire notre esprit, qui est imprégné de cet amour altruiste et où il n'y a plus d'objet de référence, simplement l'esprit, qui est empli de cet amour altruiste, sans objet, référentiel, mais qui retrouve ainsi, qui est immergé dans sa propre nature d'amour et de compassion, de bienveillance. Et pour terminer cette méditation, on va dire la prière qui est dans le livret doré, qui se trouve à la page 176, je crois. Pas sûr, hein, les pages et moi, ça fait deux. Ouais, vous avez un truc qui s'appelle Méditation sur la Bodhicitta. En dessous, il y a ce qu'on appelle les quatre pensées incommensurables. Vous avez ça ? Page 176. On va le lire ensemble, cette petite prière pour terminer la méditation. Vous l'avez ? Page 176 ? Ok. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître Déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Oui, on imagine, hein, quand on dit Maître Déité, on imagine que le Bouddha est devant nous et qu'on s'adresse à, lui. Ça peut être aussi une déité ou le Bouddha, comme on veut. Donc on adresse cette prière au Bouddha, en lui demandant de nous bénir pour qu'on puisse justement accomplir cet état d'équanimité incommensurable, qui ne fait pas de distinction entre les amis, les ennemis ou les gens qui nous laissent indifférents. La deuxième incommensurable, c'est l'amour, la bienveillance, l'amour altruiste. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et ses causes. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître Déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. L'amour altruiste, la troisième strophe, c'est la compassion. Compassion incommensurable. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître Déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. On peut imaginer à ce moment-là que des rayons de lumière viennent du Bouddha en face de nous, qu'on visualise dans l'espace en face de soi, et ces lumières nous emplissent notre corps et nous donnent donc la capacité de faire ça. Nous donne la réalisation de chacun des points. Le dernier, c'est la joie incommensurable. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur, des renaissances supérieures et de la libération. Puissent-ils ne jamais en être séparés ? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître Déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. On sent que le Bouddha est vraiment heureux, vraiment satisfait de notre décision, de notre méditation et de notre volonté de vouloir faire le bien des autres, puisque c'est l'essence de son enseignement. Donc, on avait fait cette pratique quand on avait fait à la retraite, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, c'est une pratique qui permet justement de développer ou de concrétiser son développement de la bodhicitta. Donc vous voyez que chacune est composée de quatre phrases qui reviennent. La première phrase, comme ce serait merveilleux, c'est simplement une aspiration, c'est un souhait. On souhaite que les êtres aient le bonheur, par exemple, et ses causes. C'est une aspiration. C'est la bodhicitta d'aspiration. Hein ? Ensuite, puisse-t-il obtenir le bonheur et ses causes ? C'est plus une prière, en fait, hein, qu'on adresse au Bouddha. Hein ? Puisse-t-il obtenir le... Nous, on fait ce qu'on peut, mais si vous pouviez nous donner un coup de main, ça serait bien aussi. Puisse-t-il obtenir le bonheur et ses causes ? Et la troisième strophe, c'est moi-même, je ferai en sorte qu'elles les obtiennent. Là, on est plus dans l'engagement, la bodhicitta d'engagement, où on va essayer de faire de son mieux pour que les autres soient heureux. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un vœu pieux, c'est presque un engagement ou une responsabilité qu'on prend, en tout cas. Et le dernier, c'est on demande la bénédiction ou l'inspiration de notre maître spirituel, si on en a un en personne, ou si on n'en a pas, bien du Bouddha, par exemple, qu'on a visualisé devant soi, ou d'une déité, si on sent certaines affinités avec Tara, par exemple, ou avec Avalokiteshvara, qui est là. Et on peut leur demander justement qu'ils nous imprègnent justement de cet état de compassion ou d'amour altruiste en nous bénissant. Donc voilà une prière qui est comme une espèce d'introduction en fait à Bodhicitta. Donc, revenons maintenant à notre méthode pour développer bodhicitta. Donc, la bodhicitta, comme on le disait un peu ce matin, c'est le contraire du chérissement de soi. C'est le contraire de l'égoïsme, c'est le contraire de la saisie du soi, c'est l'opposé de tout ça. Et ça part déjà de la constatation que pratiquement tous nos problèmes, en fait, ou en tout cas de nombreux problèmes que nous avons dans la vie, viennent en fait de notre attitude qui est un peu trop fermée, trop étroite, trop concentrée sur nous-mêmes. Donc bodhicitta, ça va être le cœur, comme dit Yamaha, le cœur ouvert, où on est moins centré sur soi-même et on est beaucoup plus ouvert aux autres. Sinon, c'est perpétuer encore le chérissement de soi, une attitude égoïste. Donc, au lieu de se concentrer sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses peurs, sur tout ce qui ne va pas en nous, et de ressentir une espèce de frustration, même voire de colère, on va tourner cette attitude, on va tourner sur les autres. Et au lieu de s'essayer de se faire de ne se soucier que de soi-même, on va essayer d'avoir une attitude beaucoup plus ouverte. Et qui va, cette ouverture va être transformative, en fait. C'est ça qui va nous amener à nous transformer. C'est-à-dire que chaque fois que l'on... Et ça, on le fera encore plus le week-end où on verra comment transformer ces problèmes. Ça va être la mise en application de bodhicitta. Donc ce week-end, on voit un petit peu la méthode pour développer bodhicitta. Et le week-end suivant, on verra après comment utiliser les situations néfastes ou conflictuelles pour justement développer la bodhicitta. C'est parce que c'est dans ces moments-là aussi qu'il faudra utiliser cette méthode. Donc la première chose que nous devons faire pour utiliser cette méthode, c'est commencer déjà à voir les bienfaits de bodhicitta. Et les bienfaits de bodhicitta sont donnés en général dans le Lamrim, c'est très bien, il y a à peu près une dizaine de bienfaits qui sont donnés. Dans un livre, ceux qui lisent l'anglais, qui voudraient l'acheter, il est très très bien. C'est un livre du Dalai Lama qui s'appelle In Praise of Great Compassion, où il explique la méthode de bodhicitta, où il parle beaucoup de bodhicitta justement dans cet ouvrage. Et il parle aussi des quatre incommensurables, là dont on vient de parler. Et il parle notamment donc des bienfaits de bodhicitta. Il parle aussi des causes de bodhicitta. Donc, il faut savoir que la bodhicitta, c'est un phénomène conditionné, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est un phénomène conditionné ? Qui dépend de causes et de conditions, qui ne vient pas tout seul. Donc, pareil, la bodhicitta aussi doit s'appuyer sur certaines causes. Il faut qu'il y ait des causes pour faire naître la bodhicitta. S'il n'y a pas les causes, elle ne viendra pas. C'est le principe même de la loi de causalité. Pour qu'on ait l'effet, il faut qu'on ait la cause. Et donc, cette bodhicitta, elle ne peut apparaître que si l'on crée les causes. Et si on crée des causes justes, des causes, pas des causes discordantes, c'est-à-dire, mais des causes qui vont favoriser son développement. Et certaines de ces causes, il y a à la fois des causes internes et des causes externes. Les causes internes, c'est déjà nous, cet embryon d'amour et de compassion qu'on a tous à l'intérieur de nous, et qui est la cause même de la bodhicitta. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas développer la bodhicitta. Donc il faut qu'à l'intérieur, on ait cet élan quand même de compassion et d'amour. Mais ça, on l'a tous, à des degrés différents, plus ou moins développés, mais tous les êtres vivants ont ça. Donc ça, là, c'est cette base interne, cette cause interne, elle est là. Ensuite, il y a les causes externes. Et les causes externes ou extérieures, c'est par exemple ça, venir écouter des enseignements sur bodhicitta, de s'intéresser au développement de bodhicitta, de se demander comment faire, d'être intéressé par ça. Dalai Lama dit, par exemple, une cause extérieure de bodhicitta, c'est d'être guidé par un maître du Mahayana. Si vous voulez développer Bodhicitta, vous allez voir un maître du Mahayana. Vous n'allez pas voir un maître du Hinayana, du petit véhicule. C'est pas son truc. Vous allez voir un maître du Mahayana, comme par exemple dans un centre bouddhiste tibétain, qui est un centre mahayaniste, hein, ici, FPMT, hein, c'est ça, hein, Fondation pour la préservation du bouddhisme Mahayana. Hein. Donc c'est voir des maîtres qui authentiques, hein, qui enseignent cette comment développer ça. Ensuite, bien sûr, ça va être la pratique, ça va être la mise en pratique, l'entraînement, l'exercice, la méditation, et essayer de l'attitude, c'est essayer d'être moins centré sur soi-même. D'être moins centré sur soi-même et d'essayer de s'ouvrir le plus possible aux autres. Alors le Dalai Lama a toujours... Bon, le Dalai Lama, c'est un Bouddha. Hein. C'est plus qu'un Bodhisattva. Et il a toujours une manière d'approfondir le sujet, hein, qu'on n'a pas forcément vu. Ces livres sont assez intéressants parce qu'il a, quel que soit le niveau que l'on est, qu'on soit débutant, intermédiaire ou avancé, il y a toujours une petite phrase très éclairante qui nous titille ou qui nous touche, en tout cas là où on est. Et par exemple, il va parler. Ce matin, je vous ai dit, vous savez que. La rate, il réalisait la vacuité, puis il devenait rate et il était libéré. Alors que le Bodhisattva, lui, ce qui l'intéressait vraiment, c'était le développement de la compassion, le développement de la Bodhicitta. Ça s'intègre de la main, il dit qu'en fait, il faut cultiver les deux en même temps. Il ne faut pas faire qu'une seule chose. C'est-à-dire que même un Bodhisattva, il va cultiver aussi la réalisation de la vacuité. Et plus il va cultiver la réalisation de la vacuité, plus ça va l'aider à réaliser Bodhicitta. Alors qu'on pourrait avoir l'impression que Bodhicitta, c'est le cœur, hein, c'est l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres, et que la vacuité, bah, c'est juste un truc philosophique, plutôt intellectuel, on va dire, qui se fait avec le raisonnement, avec l'analyse intellectuelle, et on a l'impression que, bon, il y a la tête et le cœur, quoi. Les deux sont séparés, et que c'est pas facile de les allier. En fait, c'est tout un travail. Et toute la voie bouddhiste, hein, je pense que maintenant vous l'avez compris, hein, a pour but d'unir les deux, la sagesse et la compassion. Et donc, même si on pratique Bodhicitta, c'est ça qu'elle dit, il faut qu'il y ait dans son courant de conscience, en fait, aussi cette aspiration aussi à réaliser la vacuité. Et plus on va aller dans le sens de la vacuité, plus ça va aider aussi à comprendre la Bodhicitta. Et pareillement, ou inversement plutôt, le fait de développer la Bodhicitta va aussi aider à réaliser la vacuité. Et c'est facile, c'est plus facile à voir peut-être ça. C'est-à-dire comment, en développant Bodhicitta, on va aussi développer la vacuité. Ou est-ce que vous voyez pourquoi? Pourquoi la réalisation ou l'expérience, disons, de Bodhicitta va nous aider pour la vacuité aussi, à comprendre la vacuité.
Parce qu'on réalise qu'on est dépendant.
Voilà, parce qu'on va réaliser l'interdépendance. Voilà, exactement. On va même toucher cette interdépendance, et au lieu de la toucher uniquement avec la tête, en sachant qu'on est tous interdépendants, on va la toucher au niveau du cœur. Hein. Et ça a une qualité inestimable, hein, de toucher cette interdépendance aussi au niveau du cœur. Donc c'est une... Voilà, c'est une manière, justement, d'utiliser ces deux approches, la vacuité et la bodhicitta, pour être un individu complet et développer son potentiel au maximum. Et donc, oui, Layama dit aussi qu'en fait, donc maintenant, comment la vacuité, la méditation sur la vacuité va nous aider pour la bodhicitta? Ça, c'est l'autre aspect. Vous le voyez, ça? Donc, on a vu comment la bodhicitta aide la vacuité, mais comment la vacuité aide la bodhicitta. Oui. Et que si l'on, oui, que tous les êtres sont vides d'une existence inhérente, hein, Et plus on va essayer de comprendre, je sais pas, vous avez peut-être d'autres idées. La vacuité, c'est la réalisation de la vérité ultime.
Oui, c'est là.
Oui, c'est la réalisation de la vérité.
Donc, Bouddhisita amène, l'un amène l'autre dans la vacuité.
Oui.
Amène, c'est le but qu'on recherche tous. Mm-hmm.
Donc, en réalisant la vacuité. Mais alors, pourquoi les arhats, par exemple, ils n'ont pas automatiquement la bodhicitta?
Par la vacuité, on affaiblit la force de l'ego.
Mm-hmm.
Mais donc, mécaniquement, ça diminue l'égoïsme, mais ça ne supprime pas complètement.
Ça ne supprime pas complètement l'égoïsme. Pourquoi? Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que il reste l'égocentrisme.
Mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. On élimine la saisie du soi, mais on n'élimine pas complètement l'égocentrisme. Donc la bodhicitta va intervenir à ce moment-là pour éliminer toute forme d'égocentrisme. Tout à fait. Bon, je vous dis quand même ce que dit le Dalai Lama. Il dit que la réalisation de la vacuité va saper, va éliminer l'ignorance, hein, la vue ignorante que l'on a du monde. Et ça va vous donner encore plus de conviction que la libération est possible, hein, que vous pouvez atteindre la libération. Et ça, comprenant que vous pouvez atteindre la libération, automatiquement, cette compréhension que vous pouvez atteindre la libération, si vous la déplacez sur tous les êtres, vous allez avoir qu'une chose en tête, c'est que les autres êtres aussi atteignent la libération, soient aussi libérés de leur souffrance. Parce que vous voyez que c'est possible pour vous, et donc ça serait dommage que les autres êtres ne le comprennent pas eux aussi. Donc plus vous allez voir combien la vacuité vous permet d'atteindre une libération, plus vous allez souhaiter en même temps que les autres êtres l'atteignent aussi. Et pas, si vous avez aussi commencé à développer bodhicitta. Donc les deux vont aller de pair. En comprenant la vacuité, vous allez aussi comprendre que les autres êtres sont vides d'existence intrinsèque et que s'il leur suffirait qu'ils réalisent cela pour qu'ils soient libérés de leurs contraintes, de leur karma et de leurs perturbations mentales. Donc c'est une manière en fait d'approcher. Faut pas croire que parce qu'on est uniquement qu'on médite uniquement sur la vacuité, on va forcément vers une libération individuelle sans s'occuper des autres. À ce moment-là, c'est sûr, c'est possible que ça arrive. Mais grâce, si déjà dès le départ on a développé l'aspiration altruiste à l'éveil, automatiquement on va avoir envie que les autres êtres fassent exactement le même parcours que nous. Donc ça va dans un but altruiste en fait. Ça va confirmer un petit peu notre désir que les êtres soient heureux. Donc dans ce sens-là, la réalisation de la vacuité, c'est un outil excellent quoi, puisque on comprend déjà d'une chose que nous sommes tous interdépendants, que les êtres sachant que les êtres veulent être heureux, on voit comment ils pourraient être heureux. Et donc forcément, on a envie de les aider à cela. Voilà, donc ça c'était les causes de la bodhicitta. Maintenant, les bienfaits de la bodhicitta. Les bienfaits de la bodhicitta, c'est des bienfaits qui sont absolument, on pourrait dire, incroyables. Et à un niveau, au niveau ultime, mais aussi au niveau relatif. Au niveau relatif, on dit que le simple fait de méditer sur la bodhicitta, ça vous rend déjà heureux. Ça amène de la paix, ça amène du bonheur dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est au niveau, c'est ce que dit le Dalai Lama. Hein, c'est pas quelque chose que je vous dis comme ça, en vous disant la bodhicitta, c'est comme ça. Vous pouvez en faire l'expérience tout de suite. Hein. Il vous suffit de... quand vous rencontrez des problèmes, qu'au lieu de vous centrer sur vous-même, vous déplaciez cette attitude et vous reportez ça sur les autres Et vous avez tout de suite une vision beaucoup plus globale et ça vous apaise tout de suite. Donc ça, y a un des bienfaits de la bodhicitta, c'est ce facteur d'apaisement qui est pratiquement immédiat. Et donc ça, c'est une chose déjà. Et pourquoi aussi ça calme la bodhicitta? Parce que en développant la bodhicitta, donc c'est le souhait de la bodhicitta, c'est le souhait de vraiment être bénéfique aux autres. Et quand on veut vraiment être bénéfique à quelqu'un, quand on veut faire le bien de quelqu'un, on oublie ses défauts en fait, en quelque sorte. On est moins critique. Quand on a envie d'aider quelqu'un, on passe par-dessus certains défauts de cette personne. On se concentre pas là-dessus. On sait que cette personne a des défauts, ok, peu importe. Mais ce qu'on veut faire surtout, c'est l'aider. Donc, quels que soient ses défauts, ok, ça passe. On va pas être dans le jugement. Hein. On est dans le jugement à partir du moment où on se sent différent de l'autre, où on se sent même supérieur à l'autre. À ce moment-là, on est dans le jugement. Mais si on a envie d'aider quelqu'un, on n'est plus dans cette attitude de supériorité. On est plus dans une attitude d'égalité. Et on n'émet pas de jugement sur la personne. Tout ce qu'on veut, c'est l'aider, hein, automatiquement. Donc ça, ben ça va éliminer beaucoup de facteurs perturbateurs. Hein. Ça va éliminer des perturbations mentales, comme la jalousie, comme l'orgueil, comme la colère, par exemple. Et donc, tout de suite, l'esprit va être beaucoup plus apaisé. Donc le Dalai Lama nous dit, quand nous souhaitons sincèrement être bénéfiques aux autres, on laisse tomber les attitudes critiques. Hein. On oublie toute attitude critique envers ces personnes. Et puisqu'il n'y a plus ces attitudes critiques, puisqu'il n'y a plus ces pensées négatives qui tournent en rond dans notre tête, et ben forcément, notre esprit est plus calme. Hein. Il est beaucoup plus détendu. Et donc, lorsqu'il n'y a pas ces pensées négatives qui tournent en rond dans notre esprit, on se sent déjà beaucoup mieux. Hein. Et notre esprit, quand il est empli de pensées positives, notre santé aussi s'améliore. Donc ça, le bodhicitta a un effet aussi sur la santé. Non seulement sur l'esprit, parce que ça élimine les pensées négatives, mais du fait que ça élimine les pensées négatives, automatiquement, on est en meilleure santé. Et continue. Ça, non seulement on est en meilleure santé, mais nos relations avec les autres s'améliorent. Que ce soit avec les amis, avec la famille, peu importe, même avec les étrangers. Et si nous pratiquons la bodhicitta quand on est fatigué ou quand on est malade ou quand on est blessé, notre esprit sera calme, il sera apaisé. Hein. Et donc s'il est apaisé, forcément on trouvera un remède beaucoup plus facilement, où le remède aura beaucoup plus d'impact sur nous, hein, sur notre situation physique. Et donc, l'intention altruiste aussi, au moment de la mort, très importante, ça devrait être nos dernières pensées, en fait. Si au moment de la mort, vous mourrez avec un état d'esprit empreint de bodhicitta, ou au moins de pensées tournées vers les autres, automatiquement, il y a une paix dans l'esprit. Qui est là, aussitôt. On meurt sans regret et on ressent qu'en fait, que notre vie a été utile. Et ça, on appelle ça justement, c'est une des forces que l'on doit essayer d'appliquer au moment de la mort. Justement. On appelle ça la force de la bodhicitta. Si on a essayé de l'appliquer de notre vivant, dans les situations difficiles, forcément aussi, on va le faire au moment de la mort si on meurt dans des conditions assez favorables où on a le temps de réfléchir un petit peu, d'amener un peu à la conscience tout ça, la bodhicitta va être un facteur apaisant à ce moment-là. Puisque elle va, si c'est ça qu'on a pratiqué déjà pendant toute notre vie, ça va forcément revenir au moment de la mort. Et on va mourir avec un esprit complètement apaisé. Donc voilà pour les bienfaits de la bodhicitta. Je vais prendre le lamrim parce que Je vais quand même vous les énumérer pour avoir une petite idée comme ça de tous les bienfaits. Il y en a beaucoup, mais ils ont été classifiés en 10, je pense. Voilà. Donc, premier bienfait de la bodhicitta, c'est que votre esprit est maintenant entré dans le grand véhicule. Donc, vous avez dans l'esprit quelque chose de beaucoup plus vaste qu'avant. Et vous êtes rentré dans le grand véhicule. Du fait d'avoir développé bodhicitta, donc vous êtes un pratiquant du grand véhicule. Et. Deuxième bienfait, vous devenez l'enfant des Bouddhas. C'est-à-dire que c'est comme ça que c'est expliqué dans les textes. Hein, c'est la manière les bienfaits qu'on donne de manière traditionnelle. Vous devenez l'enfant des Bouddhas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez la bodhicitta, vous êtes dans la lignée, dans la filiation spirituelle des Bouddhas. Ça veut dire que vous allez forcément atteindre l'éveil à un moment donné, quel que soit le temps que ça prendra. Et l'exemple qui est donné, c'est comme si vous étiez le fils d'un roi, quoi, ou la fille d'un roi, ou un prince ou une princesse. Et si un enfant naît d'une famille royale, automatiquement, il a les gènes, il a le sang, il a la filiation de devenir roi. Et déjà, dès sa naissance, il surpasse tous les ministres, on dit, tous les ministres du roi, parce que lui ou elle, il a cette filiation. Alors qu'il n'est pas encore complètement développé, alors qu'il est encore un enfant. Et même le fait même qu'il ait cette descendance royale lui fait surpasser n'importe quel autre ministre ou n'importe quoi qui n'aurait pas cette filiation. Donc c'est en ça que les textes vantent en fait les bienfaits de cette bodhicitta, c'est comment vous la développez dans votre esprit, vous êtes un enfant de Bouddha, vous allez forcément atteindre l'éveil et vous surpassez tous les autres pratiquants qui n'ont pas cette intention-là, hein, malgré leur réalisation, hein, malgré donc c'est au sens où c'est dit, oui, il est dit dans un troisième temps, vous surpassez tous les pratiquants du Hinayana qui, malgré leur réalisation, qui ont des réalisations plus hautes que vous, certainement, mais du fait que vous venez de générer cette bodhicitta, vous êtes affilié, vous êtes dans la lignée, dans la dynastie des Bouddhas, et donc automatiquement vous êtes un objet, un support d'offrande et de prosternation pour les humains et les dieux, hein, dit les textes. Parce que dès qu'on génère cette bodhicitta, tout le monde va vous rendre hommage. Et il y a un autre texte qui vous dit, en fait, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez habillé d'une certaine manière ou d'une autre, à partir du moment où vous avez développé cette bodhicitta, c'est comme si autour de vous, vous étiez protégé. Il y a une espèce de protection qui... Par qui, par quoi, je ne sais pas, je ne vois pas. Mais en tout cas, par différentes entités, hein, des protections qui se mettent en place automatiquement à partir du moment où vous avez développé cette bodhicitta. Pourquoi ? Parce que vous allez devenir Bouddha à un moment donné. Hein. Donc ça va être c'est ça qui mérite le plus grand respect. Et Atisha, donc qui a amené le bouddhisme au Tibet, répétait souvent que il demandait aux gens quelle est votre pratique. Alors les gens lui disaient, oh, moi je pratique telle déité, celle-ci ou celle-là, et ça lui déplaisait en fait. La seule chose qu'il aimait entendre, c'était quand quelqu'un lui disait que sa pratique, c'était la pratique de la bodhicitta. Et c'est ça qui le mettait en joie. Tout le reste, entendre de dire qu'un pratiquant méditait sur la vacuité, ou qui méditait sur le Tara, ou qui méditait sur Avalokiteshvara, pour lui, ça n'avait aucune importance, parce que ça ne voulait rien dire, en fait. Ça ne voulait pas dire qu'on était plus avancé qu'un autre. Ça veut dire bon, qu'on avait adopté telle ou telle déité, et alors quoi. Tandis que dire qu'on pratiquait la bodhicitta, pour lui, c'était la garantie qu'on allait devenir un Bouddha. À partir du moment où on pratique la bodhicitta, un des cinquièmes bienfaits, c'est qu'on accumule instantanément, on obtient instantanément une vaste quantité de mérite. Pour atteindre l'éveil, il faut beaucoup de mérite. Il faut avoir, faut accumuler un stock incroyable de mérite. Sans la bodhicitta, c'est très difficile d'accumuler tous ces mérites. Au contraire, le fait de générer la bodhicitta permet de les accumuler, de les acquérir très très rapidement. Parce qu'à partir du moment où on génère cette ouverture du cœur, il y a une qualité dans ça. La pratique prend une autre qualité, elle prend un autre sens. Elle englobe tous les êtres dedans. Au lieu que ça soit une pratique personnelle, elle devient... C'est pour ça qu'on appelle ça les incommensurables, les quatre incommensurables, ces pratiques qu'on avait tout à l'heure, parce qu'elles prennent en compte le nombre incommensurable d'êtres. C'est pour ça qu'on leur a donné le nom de pratique incommensurable. C'est-à-dire, à partir du moment où votre pratique elle est ouverte sur la totalité des êtres, elle amène des mérites qui sont égaux à la quantité des êtres. Donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement puissante. Ça a un effet automatiquement sur le karma. À partir du moment où on génère la bodhicitta, on purifie instantanément un grand nombre d'actions négatives. Et pourquoi? Ça, vous pouvez répondre. Pourquoi, à partir du moment où on génère la bodhicitta, ça a un effet immédiat de purification des actions négatives? Qui a une idée?
Parce qu'on a beaucoup moins de perturbations mentales.
Parce qu'on a beaucoup moins de perturbations mentales, oui. Mais pourquoi ça purifie? Oui, ouais, ça apaise l'esprit. Je dirais, on a moins de perturbations mentales, donc ça apaise l'esprit. Ça a un effet sur le calme mental. Oui, mais pourquoi ça purifie pourquoi ça purifie le karma négatif qui était déjà là?
Je pense.
Oui, attendez, il y a quelqu'un dans la salle. Après, oui, pardon. Allez-y.
Oui, je pense que ça le permet, c'est-à-dire grâce à l'énergie positive que ça crée, que ça dégage.
C'est ça. Oui, bien. Ouais. Ça crée une telle énergie positive que ça surpasse toute forme d'action négative qui était déjà là. Ouais, c'est pas faux. Oui, il y a autre chose sur Zoom, vous disiez quelque chose.
C'est un remède.
Exactement, c'est ça. Enfin, c'est pas le remède, mais ça fait partie des quatre forces d'opposition. Hein, la première, c'est bodhicitta. C'est la première force d'opposition, bodhicitta. Refuge et bodhicitta. Pourquoi? Parce que toutes les actions négatives que l'on a créées, on les a créées avec d'autres êtres, ou pour d'autres êtres, ou d'autres êtres étaient impliqués. Si on a tué, si on a volé, si on a menti, si on a fait quoi que ce soit, inconduite sexuelle, etc. Il y avait toujours quelqu'un à qui on a fait du tort. Hein? Forcément. Donc, et ça, cette action négative de faire du tort à quelqu'un, par le vol, etc., ça a créé une action négative. Donc le fait de générer bodhicitta et de prendre le contre-pied, hein, c'est-à-dire au lieu de faire du mal aux autres, maintenant, on va faire que du bien aux autres. Hein. Donc forcément, c'est ça qui a l'effet inverse. Et qui purifie les actions négatives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a cette pensée de vouloir faire le bien des autres, ça élimine en grande partie, pas tout complètement, mais en grande partie des actions négatives qui ont été commises. C'est pour ça que ça fait partie de la bodhicitta est une des forces d'opposition dans la purification des actions négatives et qu'elle est indispensable. Il y a une partie justement de. On commence comme ça en général, quand on fait la pratique de Vajrasattva, on prend refuge, on s'appuie sur les Bouddhas pour nous aider à purifier notre karma négatif, mais on s'appuie aussi sur les êtres pour purifier notre karma négatif. Hein? C'est-à-dire que c'est à cause d'eux, c'est à cause de nous, c'est à cause de nos perturbations mentales, mais c'est par rapport à eux qu'on a créé des actions négatives, donc on va. Renverser ça et prendre ça comme appui pour essayer de développer vis-à-vis d'eux, dans une attitude de demande de pardon, en quelque sorte. Cette première force, elle est très très puissante, puisque finalement, c'est comme si on demandait aux êtres de nous excuser, quoi, de nous pardonner ce qu'on a fait. Donc c'est en ça que cette pratique on dit que les actions négatives sont plus instantanément purifiées. Tous nos souhaits sont exaucés. Hein ? La bodhicitta, on dit, conduit sans effort et rapidement à toute réussite. Si on est coincé dans certaines difficultés, qu'on n'arrive pas à avoir le bout du tunnel, ou à avoir ce que l'on recherche, dans la mesure où c'est bénéfique, bien sûr, le fait de se détacher de ça, de se détacher de cette saisie personnelle, en incluant tous les êtres dedans, va amener la réussite. On dit que grâce à elle, tout ce qui aux yeux des êtres ordinaires apparaît très difficile, contraignant et voué à l'échec, devient facile et réussi. Huitième bienfait, nous sommes protégés des obstacles. Les textes disent, à partir du moment, comme je vous le disais tout à l'heure, où on développe bodhicitta, les protecteurs du dharma sont ravis et restent à proximité de vous pour vous aider, pour vous protéger et pour vous aider à accomplir vos souhaits. Parce que vos souhaits sont forcément positifs. Et les protecteurs du dharma, hein, que je ne vois pas, mais qui sont sans doute là, aident les pratiquants qui ont des intentions positives. Donc à partir du moment où on a cette intention la plus positive qui soit, c'est évident qu'on va être aidé. De toutes les pratiques qui éliminent les obstacles, la bodhicitta est la plus puissante. Donc quand on a des obstacles, pensez à bodhicitta. Quand on a des obstacles sur son chemin. Le texte dit, les terres et les voies sont rapidement atteintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avance très vite sur la voie vers l'éveil. On franchit très vite les différentes étapes à ce moment-là. Et pourquoi on est retardé dans notre progression vers l'éveil? C'est à cause de l'égoïsme. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment développé des tendances altruistes. Plus on va développer ces tendances altruistes, plus la voie va être facile et rapide. Disent les textes. C'est pas moi qui le dis. C'est ce que les maîtres disent qui ont fait l'expérience de tout ça. À partir du moment où on a développé la bodhicitta, tout devient beaucoup plus facile, tout devient beaucoup plus rapide. Et le dixième bienfait, c'est que nous devenons une source de paix et de bonheur pour les êtres vivants, pour tous les êtres vivants. C'est-à-dire que tous les êtres profitent finalement, du fait que vous avez développé la bodhicitta. C'est un bienfait immédiat sur tous les êtres. Alors, il y a une phrase, quand on parle de la bodhicitta, on dit souvent ce quatrain de Chandrakirti. On va voir ce que ça veut dire. Les auditeurs et les réalisateurs solitaires, c'est-à-dire les pratiquants du Hinayana, naissent des Bouddhas. Les Bouddhas naissent des bodhisattvas. La compassion, la compréhension non duelle et la bodhicitta produisent des bodhisattvas. Donc en fait, ça veut dire que toutes les voies en fait, qui ont été enseignées par les Bouddhas, finalement, où est-ce qu'elles mènent, toutes ces voies, elles vont nous amener à réaliser la bodhicitta. Et le texte termine, pour que la bodhicitta ne reste pas au niveau des mots, il faut qu'elle repose sur une grande compassion sincère face à la souffrance de tous les êtres. Donc on va voir maintenant donc la méthode proprement dite pour développer la bodhicitta, la méthode qui s'appelle la méthode des six causes et un effet. Peut-être que vous voulez faire une pause maintenant avant qu'on s'attaque à ça. Bon. Et on va regarder quelles sont les différentes étapes pour la produire et sur quoi ces étapes reposent. Donc on fait une pause d'un quart d'heure et on reprend à 50.